c'est une grande avancée.
Oui, elle a révolutionné la science.
Il y a d'autres choses avant, après.
Est-ce que je serais prête à me battre pour cette personne?
Mais une fille, quand elle a chaud, c'est son problème.
En fait, la réalité, c'est pas du tout ça.
On a l'impression de pas mériter ce qu'on a, de pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour.
Je suis fière d'être une bédarde.
Salut, c'est Lou, la voix off du Rêvecast. Mais tu me connais un petit peu maintenant. On se retrouve pour la suite de la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Révèle qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires dans l'empowerment féminin depuis 2013. Aujourd'hui, les filles ont décidé de traiter le sujet de l'écologie dans le cadre d'une discussion entre filles. Les femmes qui sont expertes et militantes sur les sujets écologiques sont souvent bridées et pas prises au sérieux. Et pourtant, un certain nombre d'entre elles sont hyper engagées. Du coup, on va faire un petit jeu ensemble, un petit qui est-ce. On commence ? Si je te dis qu'en 2018, j'ai initié la première grève de l'école pour le climat et j'en ai fait un mouvement international. Maintenant, je suis un visage incontournable de la jeunesse qui lutte contre le réchauffement climatique. Pour la petite anecdote, j'ai même inspiré le nom d'une promotion Révèle ton potentiel en avril 2022. Je suis... Eh oui, Greta Thunberg. Greta, c'est Friday for Future. Mais c'est aussi son discours en 2019 à l'ONU face aux dirigeants du monde entier. Tu t'en souviens ? Si ça te rappelle rien, écoute ça.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
Ce fameux discours, il a fait le tour du monde. Mais en tant que jeune et femme, les gens arrivaient quand même à la critiquer. Sur France Inter, ils sont même allés interroger des personnes dans la rue pour avoir leur avis sur le discours de Greta. On les écoute ?
Je me demande par qui elle est manipulée. Et...
Vous pensez qu'elle l'est ?
Je pense qu'elle l'est. Son physique, le fait qu'elle soit jeune, bien sûr qu'elle est manipulée. Disons que par derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, quoi. Mais je ne dis pas ça d'un côté péjoratif.
Une gamine de 12 ans qui est évidemment manipulée par sa famille ou par des gugus. Hein. Je trouve que c'est assez lamentable.
Elle n'a pas 12 ans. Hein.
Comment ?
Elle a 16 ans.
Ah oui, 16 ans, bon, c'est pareil.
Bon, tu vois, c'est pas glorieux, mais Greta Thunberg, elle a quand même reçu de nombreux prix pour son engagement et son militantisme. En mai 2019, elle a fait la couverture du magazine Time, qui lui décerne le titre de personnalité de l'année, et elle est par la suite classée dans la liste Forbes des 100 femmes les plus influentes du monde. Et tout ça à moins de 20 ans. Bon, on continue notre jeu ? Si je te dis qu'en 2018, je deviens porte-parole du collectif On est prêt, et j'interviens au Parlement européen en tant que présidente de la section étudiante d'Amnesty International. Depuis 5 ans, je médiatise haut et fort la cause climatique et la lutte pour un changement radical de notre manière d'être au monde. Ça te dit quelque chose ? Camille Etienne. Eh oui, elle a créé le collectif Avant l'orage, qui utilise l'art pour lutter contre le réchauffement climatique. Étonnamment, elle est elle aussi décrédibilisée. En 2020, à l'occasion de l'université d'été du MEDEF, elle a été invitée à discuter avec les dirigeants d'entreprise de la réduction du temps de travail et des limites de la croissance. Écoute ça, franchement, pas facile de tenir tête.
Donc je pense que l'entreprise aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudra dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir.
Alors... Vous êtes ici quand même à la REF du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Donc j'aimerais quand même...
Ok, une dernière pour la route. Je suis une essayiste, conférencière, consultante en politique publique et militante écologiste, féministe et antiraciste. J'ai cofondé le collectif Front de Mer, un syndicat de parents dans les quartiers populaires, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La puissance des mères » qui a même reçu le prix du public de l'essai féministe en 2021. Je suis Fatima Wasak. C'est quand même une femme super badass. Hein. Elle a créé à peu près, je pense, 45 000 collectifs autour des discriminations de genre, de classe sociale, d'origine, de couleur de peau, mais aussi elle a cofondé la première maison d'écologie populaire à Bagnolet, qui s'appelle Vert Dragon.
Non, vraiment, ce qui compte pour moi, comme pour beaucoup, c'est de travailler à un monde plus respirable pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et donc de travailler à élargir ce front, et notamment aux classes populaires, à toutes les classes populaires.
Bon, maintenant, place à la parole des filles. Je reviendrai dans tous les cas au cours de cet épisode pour t'apporter plus d'informations.
Coucou les filles, comment ça va aujourd'hui?
Ça va et toi?
Ça va et toi? Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler d'une thématique qui est l'environnement et l'écologie. Donc, mais avant tout ça, on va se présenter tour à tour.
Alors, moi, je m'appelle Inaya, j'ai 15 ans et je suis en seconde.
Moi, je m'appelle Ella, j'ai 16 ans, je suis en première générale.
Moi, je m'appelle Déborah, j'ai 23 ans. J'ai séché tous mes cours de droit de l'environnement du semestre. Ah, voilà, pour vous dire. mais c'est sympa, on va en discuter.
Et moi, c'est Émilie, j'ai 17 ans et je suis, on va dire, très engagée dans l'environnement, tout ce qui est dans cette cause. Mais pour aborder cette thématique sereinement, j'ai une petite question à vous poser, c'est est-ce que vous mangez des tomates en hiver?
Moi, je ne vais pas mentir, hein, je mange des tomates en hiver.
Moi aussi. Enfin, je sais que moi, j'essaye de faire attention aux saisons, parce qu'en plus, je travaille avec des maternelles. Et on a fait toute une période de vacances sur les saisons, donc on leur a appris le recyclage et tout. Mais parfois, quand je vis chez ma mère et que ma mère veut des tomates, ma mère a des tomates. Et donc, oui, il m'arrive de manger des tomates en hiver.
Bah, personnellement, oui, je mange des tomates en hiver, mais je trouve pas ça très bon. Du coup, je mange pas. C'est ma famille qui mange.
Je suis d'accord. En plus, c'est des tomates bien vinaigrées et tout, tellement ça a pas de goût. Donc,
Bah, c'est normal, en même temps, c'est pas de saison, quoi. Les tomates... C'est plutôt en été. Et moi, on va dire que moi, je mange des tomates à toute saison parce que les tomates, c'est très bon pour la santé et ça donne des vitamines. Mais est-ce que vous savez que le fait de consommer des tomates en hiver, ça a un impact sur l'environnement et plus précisément sur l'écologie? Ça participe au réchauffement climatique, en vrai?
Moi, je le sais, mais parce que de toute façon, à partir du moment où ça ne pousse pas naturellement et que tu mets une contribution humaine, et surtout quand tu veux produire à grande échelle, tu sais que ça va sûrement consommer beaucoup d'eau, qu'il va falloir, parce que c'est des fruits qui aiment le soleil, donc il va falloir les chauffer, ça va demander du chauffage, donc la consommation d'électricité. Et donc, en réalité, c'est même pour ça, en vrai, qu'on se questionne un peu là-dessus, parce que, moi, en fait, dès que c'est pas fait naturellement, je pense que, écologiquement parlant, il va y avoir une conséquence assez néfaste ou négative.
Je suis d'accord avec toi, Déborah. Je trouve que tout ce qui va être... comme tu l'as dit, ça n'a rien de répété, mais en fait, maintenant, on est dans un monde où la surconsommation, elle est totalement banalisée, totalement normalisée. Or, ça ne devrait pas l'être. On peut prendre plein d'autres exemples. Ça peut être la surconsommation de légumes. Comme tu l'as dit, on accélère le processus alors que ce n'est pas de saison, comme les tomates, par exemple. Ou autres, comme la fast fashion, etc.
Moi, je ne le savais pas du tout. J'étais plus concentrée sur la fonte des banquises, l'énergie nucléaire, tout ça. Je ne pensais pas du tout que si je mangeais des tomates en hiver, ça allait avoir un impact sur le réchauffement climatique.
Mais c'est vrai que, mais après, c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce que ça ne fait pas choquant. En fait, on a tellement l'habitude, au final, de vouloir son avocat, qui, surtout aujourd'hui, maintenant qu'on a la mode des brunchs et qu'on veut tous des avocats plutôt, qu'en plus c'est super bien quand t'es une meuf du fitness.
Instagrammable, tout ça.
Exactement, donc on en mange plein. Mais c'est vrai que, et peut-être qu'on est moins touché parce qu'on se dit, ah ouais, là on est en train de tuer des bébés ours et ça me fait un peu plus de peine de dire que je suis en train de faire du mal à une tomate. En fait, on ne se rend même pas compte qu'on mange à outrance quand tu penses après qu'il y a d'autres qui n'ont pas de nourriture, que nous on en jette et qu'au final on fait des dégâts à la planète. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais est-ce qu'on est tellement habitué à ce confort que est-ce que je peux réduire?
Vous le savez peut-être, mais la tomate, ça pousse pas en hiver. Donc comment ça se fait qu'on peut se faire une salade de tomates burrata même sous la neige? Pour ça, il faut cultiver les tomates dans d'autres pays plus chauds, et donc les exporter après par avion ou bateau vers nos pays. Ou bien les cultiver sous serre, ce qui demande beaucoup d'eau et d'énergie. Donc en fait, ne pas manger des tomates en hiver, ça peut être considéré comme un petit acte écolo.
En vrai, on parlait que t'as dit la fast fashion est là, mais est-ce que moi, j'ai une famille, on aime les vêtements, hein. Tu vois, on aime bien se saper, donc moi, je fais beaucoup de shopping, même si maintenant, j'ai réduit considérablement ma consommation de shopping, mais bon, on peut mieux faire. Mais il y a la question de... est-ce que écologiquement, je peux supporter psychologiquement d'acheter un jean à 100 euros au lieu d'en acheter un à 20 maintenant, parce que maintenant j'ai 20, mais que demain je suis même pas sûre d'avoir 80 euros au final. Tu vois ? Moi j'aimerais bien peut-être consommer mieux au niveau de, des vêtements que j'achète, mais parfois je me dis que c'est un peu dur.
Ouais, en plus c'est vrai que vivant dans un pays développé, on voit pas vraiment les conséquences de nos actes et de nos actions, notamment la consommation, le fast fashion, le fait d'acheter en grande quantité et par la suite les jeter sans vraiment les utiliser à fond. Et je trouve ça dommage parce que vivant dans un pays développé, on se rend de moins en moins compte des conséquences. Et heureusement, honnêtement, heureusement qu'il y a des reportages sur ça pour nous montrer que, en fait, le fait de ne pas suivre le cycle naturel, notamment les tomates, le fait de les acheter en hiver, ça bouscule un peu l'écosystème et l'environnement. Et ça fait que les pays sous-développés et en voie de développement subissent nos conséquences. Et en fait, je trouve que cette action d'acheter en consommation, sur consommation, c'est égoïste de notre part. On ne pense pas vraiment aux autres.
Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Déborah. Le truc qui est compliqué aussi, c'est ce qu'on ne nous inculque pas assez. Enfin, moi, j'ai 15 ans, je m'achète des fois mes habits avec mon argent de poche parce que si j'ai un jean, je ne vais pas tout le temps aller demander à mes parents. J'ai de l'argent de poche, etc. Je n'ai pas un réel salaire et je n'ai pas ces 100 euros à mettre pour quelque chose qui est made in France, ce sont des bons tissus, etc. Moi aussi, j'aime bien m'habiller, j'aime bien prendre soin de moi. Et en fait, les 20 euros, même, je vais aller dans des boutiques qu'on voit partout, dans des centres commerciaux, et je vais aller me l'acheter. C'est ça qui est dur, c'est que moi, je savais pas forcément que ça avait un réel impact sur la vie des gens.
Le fait que tu parles des jeans et tout, ça me fait rappeler à nos discussions qu'on a eues en off, c'est le fait de dire, est-ce que si j'achète en grande quantité de marques de luxe ou quoi, est-ce que je participe au réchauffement climatique ou est-ce que c'est mieux au contraire d'investir des grosses dépenses dans un vêtement, mais qui est éco-responsable, notamment fabriqué en France, qui n'est pas rejeté en Asie ou sur le 7e continent.
En coton aussi.
Exactement. Et il y a aussi le reportage d'enquête exclusive sur le Bangladesh, sur le fait que, qu'en fait, ce pays-là, il souffre de notre consommation, nous, pays développés. Et en fait, on remarque que les marques qu'on a l'habitude d'acheter, qui sont partout en France, dans les centres commerciaux, comme tu disais, Inaya, en fait, ils finissent là-bas. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. On achète, mais au final, ça part à l'autre bout du monde. Ça fait que ça pollue la planète. Personnellement, ça m'a fait réfléchir sur le fait, est-ce que je ne mettrais pas 100 euros dans un jean qui durerait 5 ans, 10 ans, au lieu de mettre 20 euros dans un jean qui dure à peine un mois?
Après, c'est la question de, comme Inaya, par exemple, elle dit, elle a 15 ans, c'est ses parents qui lui achètent ses vêtements. Parfois, t'as des parents qui ont un budget limité, tu vois. Ouais, ils n'ont pas la marge de faire des économies. Donc, si elle peut se permettre aujourd'hui de dépenser 20 euros par enfant, tu ne sais pas si le mois prochain, elle pourra se permettre ça, te permettre de faire des économies, parce que tu ne sais pas comment ça fluctue. Et donc, en fait, on est un peu conditionné dans le « ça va vite », ben nous aussi, ça va vite, parce que déjà, en plus, même l'argent, lui, il part vite. Donc, tout va vite et tout, donc tu ne sais pas. Et même quand tu parles du Bangladesh, au final, moi, je me pose la question de « est-ce que c'est vraiment par conscience écologique ?» Parce que quand tu as eu l'affaire du Bangladesh, on a eu l'affaire du Rana Plaza, donc qui était d'une grande entreprise de textile avec beaucoup d'ouvriers qui sont morts, en fait, parce qu'ils travaillaient dans des mauvaises conditions, que les bâtiments, ils n'étaient pas du tout entretenus. Aujourd'hui, on voit qu'on a eu un impact sur la fast fashion qui est un peu développée en slow fashion, où on veut produire mieux. Mais la question, c'est est-ce que là, c'est l'impact écologique qui touche les gens ou c'est juste humainement parlant que je vais... peu consommer au final, parce que là moi ce qui me touche, c'est la personne qui est morte, c'est le dauphin qui est mort, mais est-ce que c'est vraiment la planète? Je sais pas si aujourd'hui on a vraiment cette conscience écologique en nous.
Moi je pense qu'en fait on fait ça, la slow fashion, tout ça, c'est aussi beaucoup pour se donner bonne conscience. Enfin, moi par exemple, je prends l'exemple de ma famille, on est 3 enfants, ça veut dire à chaque fois multiplié par 3, imaginez-vous le coût de la vie augmente, c'est compliqué et c'est pas donné à tout le monde. En fait, on n'a pas tous les moyens pour se permettre d'acheter des produits très qualitatifs tout le temps, et c'est OK.
Comme les fast-foods qui se préparent et se mangent vite, la fast fashion, c'est pareil. On crée la pièce vite, on la reçoit vite, ou pas, si elle provient de l'autre bout du monde, et on la consomme vite, Souvent, ce sont des produits de mauvaise qualité qu'il faut donc changer en peu de temps. Ce sont des marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent et pour pas cher. Pour te donner un petit exemple, une marque de fast fashion peut sortir jusqu'à 36 collections par an contre 4 pour une marque de mode classique. Mais pourquoi on en parle dans cet épisode au juste ? La fast fashion, c'est une industrie extrêmement polluante car elle demande beaucoup d'énergie, de ressources humaines très souvent mal payées et de matières premières. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais moi j'ai découvert que ces usines sont souvent appelées « sweatshop », ce qui veut dire « atelier de sueur ». On comprend quand même assez rapidement ce que ça insinue, mais je vais te l'expliquer pour être plus clair. Pour faire des vêtements avec un coût de production très bas, eh bien, ces marques vont aller implanter leurs usines dans des pays souvent asiatiques, avec de la main-d'œuvre très peu chère, et on va pas se le cacher, c'est aussi souvent des enfants. Et ces personnes doivent parfois produire jusqu'à 36 collections par an, comme on l'a dit, donc pour faire ça, eh bien, elles doivent travailler jusqu'à plus de 18 heures par jour. Il y a donc des problèmes en matière de droits humains, mais aussi des soucis sur l'environnement. Parce que comme je l'ai dit, pour que ces vêtements soient aussi peu chers, la qualité des tissus va être très basse, ce qui va faire en sorte que leur durée de vie soit courte afin d'inciter les consommateurs à en acheter encore plus.
Et en fait, moi je trouve que les gens, quand on parle d'écologie... moi je suis à fond dans l'écologie, l'environnement c'est fait pour moi. Pour moi, c'est la majorité de ces gens-là sont hypocrites en fait, parce que ils se disent à fond pour l'écologie, pour l'environnement, mais ne font même pas l'effort d'éteindre la lumière quand ils sortent d'une pièce, vous voyez.
Vous voyez, dans des vidéos YouTube, des recettes ou quoi, je vois des gens laisser leur robinet couler. Mmh. Ça me stresse à un point. J'ai envie de traverser l'écran et d'éteindre... de fermer le robinet, parce qu'en fait, je me dis, en fait, tu fais couler l'eau, mais il y a d'autres pays où l'eau, elle n'est pas abondante comme en France.
Mais là aussi, encore une fois, c'est que moi, personnellement, ma sœur, elle fait ça. Genre, le pire, c'est qu'elle s'énerve quand je lui dis, éteins l'eau, ferme le robinet. Et elle va faire exprès de laisser couler en mode, je fais pas ce que tu dis. Mais parfois, tu te dis, et c'est même bête qu'on puisse pas avoir des réflexes, parce qu'au final, on a souvent, je sais pas vous, entendu nos parents dire, éteins l'eau, c'est pas toi qui payes. Tu vois, donc ils ont ce truc où ils sont capables de penser, t'as plein de gens qui sont capables de penser qu'il faut fermer son robinet, mais pas forcément pour l'écologie, juste parce que c'est une question de facture.
C'est ça, et en fait je sais pas si vous êtes un peu rendu compte, mais en ce moment moi personnellement, ça fait plusieurs fois que je pars dans les centres commerciaux, etc. Ça fait plusieurs fois que je reviens sans rien. Vous allez me dire pourquoi? En fait la réponse est toute simple. Maintenant que je sais ce que c'est la fast fashion, je sais pas, je trouve que déjà, de 1, ça coûte beaucoup trop cher. Maintenant, un t-shirt, c'est pas en dessous de 10 euros. Et moi, j'ai pas une tête à donner 10 euros à un t-shirt qui viole les droits humains parce qu'ils sont souvent faits au Bangladesh, au Pakistan, où les personnes qui travaillent, qui font en fait ce t-shirt-là, sont très très mal payées et dans des conditions totalement déplorables. Moi, personnellement, ça fait plusieurs fois que je reviens sans rien. Parce que je trouve que même la fast fashion, maintenant, ça commence à devenir cher. Maintenant, je sais pas, je privilégie plus acheter sur des applications de seconde main ou en friperie, etc.
Pour rebondir sur ce qu'on disait, la société, enfin, même la société, enfin, le gouvernement, on nous inculque pas cette valeur et on n'apprend pas, on sensibilise pas les enfants comme les adultes, les petits comme les grands. Et on voit souvent, moi, je vois souvent cette publicité « c'est pas Versailles ici ». Mais moi, je comprenais pas quand j'étais petite le c'est pas Versailles ici.
Moi, je comprends toujours pas qu'est-ce que c'est.
Moi non plus, mais okay. C'est pas grave.
Ah, si vous voulez, je vous explique. C'est pas Versailles ici, c'est en gros l'électricité, c'est payant. Et okay. Du coup, c'est pas Versailles ici parce que c'est pas le château de Versailles. Voilà.
Et du coup, le truc de c'est pas Versailles ici, au lieu de mettre de l'argent dans ces publicités qu'on ne comprend même pas, on pourrait mettre de l'argent dans des sensibilisations qui pourraient nous aider à comprendre notre planète et à vivre mieux.
Oui, vous parlez de fast fashion, c'est... toi, Ella, qui parlait d'acheter en friperie ou sur Vinted, en fait, je me pose la question si le fait qu'on achète en friperie ou pas, est-ce que ça participe quand même au cycle de la fast fashion, le fait qu'on achète en friperie des vêtements de grandes marques, est-ce que ça participe pas également à ce cycle? Comme j'ai des amis qui achètent beaucoup en friperie, et même moi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, t'avais totalement raison sur ça, et là, le fait qu'on consomme, que le fait que ça devient cher, notamment avec l'inflation, En fait, on se demande la question de notre consommation, de notre propre consommation, en disant, est-ce que le fait que j'achète ce vêtement-là, que ça revient plus aux entreprises ou aux fabricants?
Après, moi, je pense que pour les vêtements, aller en friperie, c'est toujours intéressant. Mais surtout quand c'est vraiment des vieux vêtements. Dans le sens où Vinted, imaginons, j'ai acheté mon jean Zara, enfin, j'ai acheté mon jean là maintenant, il ne me va pas, je le revends sur Vinted. C'est parce qu'il est encore à la mode qu'il va partir et qu'on va me l'acheter, et parce qu'il est neuf. Alors que là où la logique pour moi, elle est plus écologique, c'est lorsque le jean, par exemple, c'est un jean qui était assez vieux, qui est qualitatif, que je peux encore consommer, même s'il n'est pas neuf et qu'il a vécu, et que je peux remettre. Et donc, c'est aussi toutes les notions d'upcycling, de je prends un vêtement, bah là, c'est un jean en jean, et au final, je le transforme pour en faire un sac à main. Et en fait, dès qu'on donne une nouvelle vie et qu'on a un nouvel usage, je pense que c'est bénéfique. Mais là où, comme tu dis, où c'est pas, on ne peut pas forcément faire ça, c'est par exemple le côté alimentaire. Dans le sens où, aujourd'hui, on pêche trop de saumon, ben, on n'a plus de saumon dans la mer. À part baisser sa consommation de saumon, j'ai envie de te dire que tu peux pas, tu vas pas recycler un saumon, tu vois. C'est soit t'arrêtes, soit t'avances. Mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre confort du saumon à la table de Noël? Je sais pas.
Moi, je trouve que c'est vraiment un facteur d'inégalité. Parce que comme tu parlais, Déborah, du saumon sur la table de Noël, je me dis, est-ce que nous, dans les pays développés, on consomme beaucoup, beaucoup, notamment le foie gras, le saumon au repas de Noël? Mais il faut se demander aussi, est-ce que les pays en voie de développement, ils pensent pareil que nous?
Bah en fait, tu as totalement raison, Déborah, sur, par exemple, le fait qu'il n'y a plus de saumon en mer, le fait que... déjà, ça montre, en fait, d'une part, une grosse inégalité de ce qui se passe en ce moment, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont encore en situation de famine. Et que là, de dire qu'il n'y a plus de saumon, bah, en fait, c'est à cause de qui? C'est à cause des pays développés, en fait. Ça montre un gros problème chez nous, les pays développés. Et il y a un autre truc d'ailleurs que je voulais parler, c'est qu'on ne peut pas recycler un aliment, c'est vrai. Mais par exemple, maintenant, il y a des applications qui revendent les invendus, enfin pas les invendus, mais les invendus du jour, mais qui vont périmer demain. Mais du coup, ils vont être en ligne le soir même. Ce qui fait qu'il y aura des acheteurs le soir même qui vont acheter, qui vont manger, qui vont consommer, ce qui va éviter le gaspillage. Donc ça, c'est une bonne initiative.
Et les fruits moches aussi. Tous les fruits qui sont juste pas beaux.
Et ça coûte moins cher aussi, c'est incroyable.
Et qu'on ne vend pas parce qu'il est moche, mais dire une poire, c'est une poire. Ouais. Mais après, encore une fois, c'est notre confort, donc on veut une belle poire.
Oui,
mais est-ce que ça reste une poire, au final, on peut la manger?
Et vous me faites remarquer que la consommation alimentaire ou textile, c'est un facteur d'inégalité, parce qu'il y a certaines entreprises qui prônent un peu l'écologie en disant oui, nous on fait ces actions-là pour protéger la planète et tout, mais en fait, on se rend compte avec du recul que c'est un peu du greenwashing. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas le greenwashing, c'est quoi? C'est le fait de tourner la lutte pour l'environnement et le réchauffement climatique à des fins politiques ou marketing. Personnellement, je me pose la question. Si il y a des politiciens, des États qui font semblant d'être dans la cause du réchauffement climatique pour se donner une bonne conscience ou pas. Et notamment, il y a l'exemple de Donald Trump avec le fait qu'il s'est retiré de la COP ou de l'accord de Paris, qui montre que les présidents qui doivent donner une bonne exemple, qui doivent diriger la politique des États, s'en contrefoue un peu de l'environnement, et je trouve ça dommage. Il y a aussi l'exemple de Macron durant sa présidentielle qui parlait de l'écologie, du nucléaire, de tout ça. Mais en vrai, est-ce que durant ces deux mandats, il a fait quelque chose? Et je trouve ça dommage de se dire que certains présidents font du greenwashing sur le fait de se donner une bonne conscience et être réélu plus tard.
Ah, le greenwashing, on en entend tout le temps parler. Mais c'est quoi au fait? Le greenwashing, c'est une stratégie de communication et de marketing adoptée par des entreprises ou autres organisations. Elle consiste à mettre en avant des arguments écologiques pour se forger auprès du public une image éco-responsable. Alors que la réalité des faits, ça correspond pas trop aux messages et valeurs transmises par l'entreprise. Un exemple assez connu de greenwashing est la soi-disant voiture propre. Beaucoup de constructeurs automobiles vantent les progrès écologiques des nouvelles voitures électriques ou hybrides comme étant à faible émission de gaz à effet de serre. Alors oui, certes, c'est bien, mais pas suffisant. Ces constructeurs oublient souvent de dire que pour recharger sa voiture, il faut de l'électricité, qui n'est pas souvent très verte, on va pas se le cacher, et que pour créer une batterie pour ces voitures, il est nécessaire d'avoir une très grande quantité de métaux, dont le lithium, qui en plus ne se recycle pas pour l'instant. Pour les entreprises, le gouvernement a créé, par le biais de l'Agence de la transition écologique, un guide anti-greenwashing afin de tester ses campagnes de communication en amont pour être sûr que, bah, c'est pas du greenwashing. Pas sûr que ce guide soit très connu, mais c'est déjà ça.
Bah, je suis grave d'accord avec toi, Émilie. En fait, la politique utilise l'écologie en guise de pub, en fait, en guise de propagande. Oui, votez pour moi parce que je vais changer le monde en mettant des règles, etc. Mais en fait, non, sérieusement, c'est vraiment une vraie question qu'on peut se poser. C'est OK, la politique, c'est bien. Enfin, quand on voit qu'un des candidats pour la présidentielle qui prône l'écologie dans son programme, c'est cool. Mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Et s'il ne le fait pas, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Faut, c'est action-réaction, en fait. Si tu vois qu'Emmanuel Macron, il ne réagit pas, bah, OK, bah, faut mettre des trucs en place, faut mettre des associations en place, faut mettre des manifestations en place, parce qu'il l'a dit qu'il allait faire dans son programme, mais s'il ne le fait pas, bah, c'est dire que c'est faux, qu'il a menti. Et là, c'est un réel problème. Et je trouve aussi qu'à l'école ou autre, on n'est pas assez averti, je trouve, au niveau de l'écologie, parce qu'on est en plein réchauffement climatique. En fait, on ne se rend pas compte de la gravité des choses. Hier, nous étions le 3 mai, on a atteint les 30 degrés en France. Je trouve que c'est un point alarmant. Il faut réagir, parce que la génération de demain va vivre sur une planète littéralement détruite à cause de l'homme.
Après, on dit beaucoup « il faut réagir ». Mais ça pose aussi la question de, là on dit les politiques, ils font pas, mais comment et on attend quoi au final pour réagir? Parce que souvent quand tu écoutes même les politiques, ils disent, ah non mais regardez en Asie, aux États-Unis, ils polluent beaucoup plus que nous, donc on doit regarder là-bas. Et après quand nous à notre échelle, on dit, ouais toi tu fais quoi? Bah tu dis, oui ben j'attends que l'État, qu'on me pousse et qu'on me donne un peu envie. Là quand on regarde sur la vie publique, en fait le ministère chargé de l'environnement et des pratiques environnementales avait mené une enquête en 2021 et il disait quand même que sur les enquêtés, 70% des Français disaient qu'ils étaient pour l'engagement individuel. Mais le problème, c'est qu'ils disent 70%, mais est-ce que 70% sont pour? Mais est-ce que sur les 70%, est-ce qu'on aura vraiment des gens qui vont avoir une approche individuelle et qui vont avoir ces gestes? Et donc moi, je trouve que c'est un peu une boucle infernale. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ça retourne, on remet à plus tard, on vise l'autre, mais nous-mêmes, à notre propre échelle. D'accord, faut sensibiliser les enfants, faut sensibiliser les gens, mais même nous qui sommes sensibilisés, qu'est-ce qu'on fait? En fait, parce que au final, comme je dis, on a tous les réseaux sociaux. La personne qui a jamais vu un des reportages de Hugo Décrypte, qu'elle lève la main, celui qui n'a jamais vu une vidéo sur l'abattage des vaches ou des poulets engraissés, qui lève la main, on l'a tous déjà vu. On voit comment c'est moche, mais qu'est-ce qu'on fait?
C'est vrai que on voit ça partout, mais j'ai l'impression que certaines personnes font comme si c'était rien.
Ouais.
Comme si en fait ça nous atteignait pas, parce que souvent c'est en Asie, en Afrique, en Amérique latine, jamais dans les pays développés. Et en fait, je pense que le fait que ces événements-là touchent pas spécialement la France, on se dit bon, ok, il nous reste encore une marge à faire, on a le temps. Mais en fait non, le temps presse, notamment l'augmentation des températures en été, où des fois ça frôle les 40 degrés et c'est très alarmant.
Et ce cercle vicieux ne se finit pas, en fait. Et il y a encore plein de chiffres et plein de choses qu'on pourrait dire. C'est comme la date du dépassement qui avance de jour en jour. En fait, la date du dépassement, c'est la date où la Terre a épuisé toutes ses énergies pour l'année, qui avance de jour en jour. Je ne me souviens plus de la date exacte cette année, mais c'est de plus en plus tôt.
Le jour du dépassement. Tu as sûrement dû déjà en entendre parler. Ce jour, il est calculé par le Global Footprint Network. C'est un jour qui correspond à la date à laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut reconstituer en une année. Et cette date, elle est de plus en plus tôt dans l'année. Pour te donner un exemple, en 1970, le jour du dépassement était le 29 décembre. En 2000, c'était le 23 septembre. Et en 2023, donc l'année dernière, c'était le 2 août. À l'heure actuelle, pour générer ce que consomme l'humanité aujourd'hui, On a besoin de l'équivalent de 1,7 terre.
En fait, je pense que c'est vraiment cette surconsommation à outrance, en fait, qui nous pousse à agir comme ça. Et c'est ce qu'on voit, parce qu'on le voit dans chacun des pays, sur les réseaux sociaux. Oh, faut être la fit girl, healthy, nanana. Faut manger des tomates toute l'année avec des avocats. Faut faire ci, faut faire ça. Mais je pense vraiment que si on était sensibilisés, mais vraiment, sans rentrer dans une éco-anxiété, hein, mais si on était vraiment sensibilisés, on ferait vraiment attention à la terre et à ce qui nous entoure. Mais le problème, c'est que après, quand on veut trop rentrer dans l'écologie, l'environnement, enfin quand on veut trop savoir ce que c'est, on en devient malade, parce que on se rend compte de tout ce qu'il y a, et on se rend compte de tout ce qu'il y a sur la table à ce moment-là, et des conséquences et du très fort impact que ça a, et on se dit purée, mais attends, il se passe quoi là? Est-ce que mais les générations qui vont me suivre, est-ce que mes descendants pourront vivre dans une vraie planète?
Je te rejoins sur certains points de ce que tu as dit, Naya, c'est que le fait de trop se concentrer sur l'environnement, sur ses enjeux, ça peut créer de l'éco-anxiété. Et pour ma part, c'est ce que j'ai vécu l'année dernière. J'avais rejoint l'Académie du climat, qui est une sorte d'école, de lieu, de QG pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'avais assisté à des sensibilisations. Et à travers ces sensibilisations-là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'environnement, elle va mal. La gestion environnementale va mal. Et c'est ça qui est alarmant.
Le terme d'éco-anxiété, il est dans la bouche de tous les journalistes et politiques, comme si c'était nouveau. Mais en fait, non. Le terme d'éco-anxiété, il a été créé par une chercheuse en 1997, qui s'appelle Véronique Lepeigne. L'éco-anxiété, elle le décrit comme un type d'angoisse assez particulier qu'on peut ressentir devant la menace climatique. Il englobe plusieurs sentiments, avec un sentiment d'intense préoccupation, de vigilance, d'impuissance, mais aussi jusqu'à aller à la colère. En 2018, il y a eu une étude américaine sur l'environnement qui a été menée, et les résultats sont pas glorieux. À ce moment-là, 72% des millennials souffraient d'éco-anxiété. C'est énorme quand même. Depuis, une enquête scientifique a été menée en 2021 dans 10 pays différents, ce qui a permis à 10 000 jeunes de 16 à 25 ans de s'exprimer sur ces sujets. Et cette étude, elle a montré que 59% d'entre eux sont très inquiets de la trajectoire climatique dans laquelle nous sommes engagés. Plus de 50% se sentaient tristes, anxieux, en colère, impuissants et coupables au moment de l'enquête. Et en plus de ça, plus de 45% ont déclaré que leur sentiment à l'égard du changement climatique affectait négativement leur vie quotidienne. Bon, comme tu peux le voir, les chiffres, ce sont pas toujours les mêmes, parce que c'est assez compliqué de connaître réellement le pourcentage de jeunes souffrant d'éco-anxiété, parce que c'est pas diagnostiqué et c'est pas considéré comme une pathologie. Pourtant, ça peut des fois mener jusqu'à la dépression. Beaucoup de jeunes ressentent également une forme de trahison et d'incompréhension souvent face aux anciennes générations. Mais plusieurs militants écologistes disent que le combat pour la lutte environnementale ne doit surtout pas être un combat de génération.
Tout ce qu'on fait actuellement, est-ce que ça a un impact sur le futur à long terme ou pas? Parce que certains politiciens font du blabla, mais on voit aucune action concrète. Et le fait qu'il y ait à côté des structures, des associations comme WWF ou Extinction Rebellion font que, en fait, à côté des politiciens, il y a les citoyens qui se rebellent contre eux sur le fait de dire « Non mais les mecs, genre ça va pas quoi, la gestion de l'environnement, de ce que vous racontez, ne va pas bien quoi, c'est très très mal géré ».
Et c'est vrai que même avec les COP et tout, donc quand on voit à quel point l'environnement ça prend de l'ampleur, et puis c'est, surtout que là on parle d'environnement, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on annonçait un peu même doucement, parce que quand on avait, avant de parler d'environnement et de sauver la planète en soi, on parlait déjà par exemple du taux de pollution. On disait tous, ah oui, l'air il est pollué, comment est-ce qu'on fait? On parlait aussi des mégots de cigarettes par terre, mais sans forcément parler d'environnement, on parlait déjà de conditions de vie. De « oh, c'est pas propre, nous, humainement parlant, au niveau de la santé, ça va mal ». Et donc, en fait, tu comprends que on a toujours un peu eu ces questions d'écologie dans un coin de notre tête, sans forcément poser le nom, et sans forcément s'alarmer, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Et c'est là où le conseil il est grave, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Alors que quand on regarde, on dit, ouais, on laisse faire les autres, mais on peut aussi regarder ce qui est bon chez nos voisins. Et quand on voit, donc je ne sais pas si vous avez les refs de ces états-là, enfin de ces pays, où ben, on a moins de verre. Pour les enfin, on utilise du verre pour les bouteilles et pas forcément des briquets en carton. Mmh. Ou quand on veut, moi je trouve ça genre trop stylé, quand tu veux par exemple acheter des cacahuètes, ben tu remplis un sac, tu viens même, toi-même avec ton sac. Donc là, au fur et à mesure, on voit qu'on a quand même des sacs réutilisables qui sont, qu'on peut recycler. Mais c'est sympa aussi de faire un effort de se débarrasser de tous les emballages qui ne sont pas nécessaires. Tout ce plastique, parfois, on n'en a pas besoin. Et là, on n'a même pas des petits gestes comme ça. Bah, et qui en plus, je trouve que pour une entreprise, ça coûte, non, de créer des emballages à chaque fois. Ils se plaignent, ouais. Et tout, de on doit réduire les coûts de production, bah, virer tout le papier qui sert à rien et vous ferez des économies. Hein.
C'est ça.
Ouais, mais en plus, les structures pour, par exemple, les magasins nature, bio, ça coûte un bras. Honnêtement, ouais, je trouve que ça coûte un bras. J'ai l'impression que le fait de manger bio, de manger correct en accord avec l'écologie, ça coûte vraiment cher et c'est pas adapté aux revenus de certaines personnes. Et c'est pour ça que ça fait qu'on utilise des produits polluants, on achète en paquet et non en vrac. Et c'est dommage parce qu'en fait, en soi, on a tous une responsabilité individuelle à faire. Par exemple, éteindre la lumière, couper l'eau. Moi, par exemple, j'ai des potes qui fument et qui jettent souvent leurs mégots par terre. Et je leur dis, non mais en fait, il faut ramasser, il faut jeter à la poubelle. Il y a une poubelle à quelques pas. Ça te coûte quoi de ramasser ton mégot et d'aller jeter? Surtout qu'en fait, un petit geste, bah ça a un impact assez important.
Pareil aussi avec ma mère, genre parfois elle jette un mouchoir par terre et moi derrière je le ramasse. Elle fait mais bon, tu ramasses. Mais maman, tu peux pas laisser ça par terre en fait. Il y a des poubelles et tant pis, quand j'en croiserai une, ouais, on va aller jeter le mouchoir. Mais il y a un truc qui est important que tu as dit, c'est par exemple tous les termes genre comme bio, quand c'est neutralité carbone et tout. Et moi, je me rends compte qu'il y a des moments où en fait on dit que c'est bio, greenwashing, machin, mais on comprend même pas ce que c'est. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens que j'entends qui disent, bah, en fait, sachez que manger bio, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top pour la planète. Parce que je crois que bio, c'est juste agriculture biologique, mais c'est pas pourtant que l'agriculture en soi, elle est forcément très saine pour et en termes de quantité de production pour la planète. Et pareil pour la question de la neutralité carbone. Nous, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire que la neutralité carbone, c'est ne produire aucune émission de carbone. Alors qu'en fait, neutralité carbone, c'est juste par rapport à ce qu'on pourrait faire à notre, enfin, à l'échelle humaine, entre ce qu'on dépense et ce que la planète peut compenser, avoir en fait trouvé cet équilibre et qui va faire une neutralité, qui en plus peut être calculée à l'échelle humaine, mais pas à l'échelle d'une entreprise, scientifiquement. Donc en fait, on est plein, en fait, on est bassiné même d'éléments qu'on ne comprend pas. Et je pense aussi que c'est le truc où, à partir du moment où tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas bien le sujet et que tu ne permets pas à tout le monde de le comprendre, c'est là où tu te dis, bon, on remettra plus tard, parce que là, pour l'instant, tu m'as fatiguée. Il me faut le temps d'assimiler, et c'est dur d'assimiler tout ça.
C'est vrai.
Et on remarque que c'est des industriels qui font un peu, qui fonctionnent un peu tout ça, notamment avec le capitalisme et la mondialisation, le fait de surconsommer. Moi, par exemple, j'ai ma prof de documentaliste au lycée qui est végane, et elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle est devenue végane. Elle m'a dit que le fait de voir des animaux en cage dans de mauvaises conditions juste pour la consommation humaine, et parce qu'en fait il faut nourrir une population mondiale, et en fait ça fait que la condition, en fait on s'en fout un peu de comment est-ce que c'est élevé ou quoi, c'est juste qu'il faut consommer, produire, et ça fait comme un cercle vicieux. Et c'est dommage parce que comme tu disais, Déborah, il y a certaines entreprises qui se disent « Ouais, nous, on fait ça, on a une neutralité carbone. » Mais en fait, on remarque que derrière des recherches scientifiques, notamment les documentaires que j'ai pu voir, il y a certaines entreprises qui, en fait, juste en façade, marquent « Oui, biodégradable, oui, bio-environnemental, respect de l'environnement. » Alors qu'en recherchant profondément, on remarque que, en fait, non, c'est pas... sur le continent, par exemple, sur le continent africain, il y a des sources de pétrole. Ben, en fait, ça pollue énormément. Mais en fait, en prenant du recul, personnellement, j'ai remarqué qu'ils font ça juste pour, encore une fois, satisfaire la consommation humaine.
Mais après, je pense que c'est important aussi de le soulever, c'est qu'au final, est-ce qu'on a une seule réponse pour la consommation d'énergie? Parce que là, on parle de pétrole. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut arrêter le nucléaire, il faut aller sur les énergies renouvelables. Mais est-ce que la solution, c'est que les énergies renouvelables. Est-ce que ça suffit? Parce qu'au final, produire une éolienne, ça pollue. Je sais pas, enfin, tu détruiras. Si un jour tu détruis ton éolienne, va la stocker, elle va aussi polluer la planète. Donc en fait, on est arrivé à un moment où la balance parfaite, je pense qu'on peut pas, enfin, on l'a pas, genre tout n'est pas dans l'électricité. Parce que même on parle d'acheter des voitures électriques, mais il faut savoir que le moteur d'une voiture électrique pèse extrêmement lourd. Ce qui fait que comme la voiture est plus basse et qu'elle se rapproche du goudron, quand tu roules et que les pneus frottent le sol, ça pollue beaucoup. Et parfois, conduire une voiture électrique va polluer plus qu'une voiture qui fonctionne à l'essence. Mais ça, en fait, on n'a pas conscience de tout ça. Ouais. Et au final, on se dit, en fait, vous dites un truc, vous vous contredisez sur un autre. Donc nous, dans tout ça, on se positionne où? Donc on ne sait pas quoi faire. Quelle voiture j'achète pour faire bien? Donc on est tellement dans un flou, c'est trop bizarre.
C'est ça, c'est des questions qu'on peut se poser en mode, ouais, mais on commence par quoi? On commence par qui? Et en fait, est-ce que par exemple, je deviens végane? Est-ce que je deviens végétarien? Est-ce que je change mes habitudes pour faire plaisir à la planète? Par exemple, au lieu de prendre, je sais pas moi, au lieu de prendre la voiture, je prends, je sais pas, le vélo ou la trottinette, etc., etc. Donc, c'est vrai que comprendre du recul sur la chose, on peut faire des efforts, mais faut être soudé. Je pense.
C'est vrai aussi.
Faut être soudé. Et je pense que la solidarité, c'est ce qui nous mènera à la victoire et à l'apaisement de notre belle planète.
Ouais, c'est vrai que moi, à un moment donné, je me suis dit, ouais, j'ai un peu réduire ma consommation de viande parce que la production de cette viande-là, elle me satisfait pas. J'étais pas en accord avec ça, mais en fait, j'ai remarqué que dans le système actuel, il y a rien qui est fait pour que il y a moins de consommation de viande. Il y a un respect de l'environnement. En fait, rien n'est adapté pour ça. En fait, on est toujours dans un schéma du capitalisme. Et c'est dommage d'en arriver là, de se dire qu'en fait, le monde cherche à faire des sous, mais pas à respecter l'environnement qui se dégrade peu à peu. Et à un moment donné, on va subir les conséquences.
Moi, je pense qu'il faut vraiment aller chercher par soi-même, être curieux, aller voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et avec des vraies preuves, pas des fake news ou des intox. Vraiment faire attention à ce que l'on fait, inculquer de réelles valeurs à nos enfants, à notre environnement, et vraiment essayer d'être le meilleur possible.
Il faut juste expliquer, parce que parfois, encore une fois, ma planète brûle, mange pas de poulet. Genre, il y a eu le rapport. Non, mais vraiment, parce que pour une tomate, par exemple, je comprends, parce que ça chauffe, mais parfois, là, maintenant, je me dis, pour le poulet, genre, il est gavé, ok, c'est pas gentil pour le poulet, mais derrière, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire, ok, la planète brûle, le poulet, genre, mettez-moi le rapport, tu vois. Et même faire des efforts, comme ça, alimentairement parlant, on a compris qu'il n'y avait pas assez de poissons, que c'est pas bon, qu'on a besoin, que pour le chêne de la vie, on en a besoin. Mais parfois, on dit même s'informer par soi-même, mais est-ce qu'on a tout le contenu pédagogique avec lequel on pourrait s'informer soi-même? Alors moi, je sais pas. Là, on a par exemple le rapport de la vie publique, le ministère qui font quelques trucs. On a des affiches dans les écoles, mais parfois, je pense que ça devrait peut-être aller plus loin et avoir plus de ressources que ça. Hein, parce que c'est beaucoup. Là, c'est maintenant, ça. On suit beaucoup d'influenceurs, comme j'avais dit.
Mais moi, ce que je voulais rebondir, c'est que tu as dit un truc, Déborah. Par exemple, ma planète brûle, mais le poulet. Tu vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, là, ça montre encore une fois à quel point. Nous, on n'est pas informés sur le sujet. On nous cache des trucs. On nous cache la réalité des choses. Nous, on ne tombe pas par hasard sur des vidéos maintenant de comment le poulet, il est gavé. Bah, en fait, moi, je ne sais pas que mon poulet, il est gavé, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est le même goût. Mais en fait, quand on se rend compte de la réalité des choses, à quel point l'élevage des animaux, comme la vache, le cochon, le poulet, etc., à quel point ça pollue, parce qu'il faut le nourrir, l'animal, il faut l'hydrater avec de l'eau, beaucoup d'eau, et ça consomme énormément d'eau, même plus qu'on en croit, et ça pollue énormément. Et donc, oui, être végétarien, c'est une bonne chose, je pense, pour la planète. Mais maintenant, malheureusement, il y a encore un souci de mobilisation. Il y a un souci de, ok, ne soyez pas tout de suite végétarien, mais essayez de réduire la consommation de viande. Parce que là, maintenant, à tout coin de rue, on a des enseignes de fast-food avec des steaks, des viandes hachées, etc. Mmh. Mais on ne sait même pas comment la viande hachée elle est faite, en fait, dans leurs enseignes. Donc, ça se trouve, elle n'est même pas bonne pour nous, pour notre santé. Donc, il faut prendre du recul sur tout ça. Et malheureusement, pas beaucoup de personnes le prennent.
Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que je ne savais pas du tout que les poulets étaient engraissés. Et ça me dégoûte. Mais je pense aussi qu'il y a différents moyens. Enfin, tu n'es pas obligé justement de devenir directement vegan ou végétarien parce qu'on a besoin de ces apports de poulet et de viande au quotidien. Non, mais vraiment, vraiment, on en a besoin. Et on pourrait juste, genre, par exemple, aller dans des fermes.
Ouais, c'est ce que je pensais.
Aller dans des fermes où il faut attention. Si on ne peut avoir une maison, avoir son propre poulailler et en prendre soin. Enfin, il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment dur parce que, après, comme on disait tout à l'heure, l'éco-anxiété, si on ouvre les yeux, on devra faire attention à tout. Et c'est se gâcher la vie. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas fait attention plus tôt.
Mmh, c'est ça.
Et justement, si on avait fait attention plus tôt, on aurait eu moins de problèmes et il y aurait eu moins de conséquences maintenant et pour les personnes
c'est ça.
Qui viendront après.
En fait, Naya, tu as totalement raison sur le fait qu'en fait, on aurait dû prendre ses habitudes plus tôt. On aurait dû prendre l'habitude de consommer moins de viande, de faire attention au transport qu'on prend, à la fast fashion, etc. Si on avait fait tout le début le bon processus, je pense qu'on n'en serait pas à ce point-là.
Et c'est vrai qu'avec tout ce que vous dites, les filles, on se rend compte qu'il y a quand même une prise de conscience chez certaines personnes. Et il y a aussi des personnalités publiques qui sensibilisent sur la cause environnementale. À la tête, là, tout de suite, j'ai Jérémy Frérot, qui, avec ses musiques de sensibilisation sur les causes de l'environnement, ou encore, il y a des écoles, des médias, des films. Comme sur Netflix, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce film, cette série documentaire, qui s'intitule « Des vies à mener, leader dans l'âme ». Et il y a un épisode sur Greta Thunberg qui montre un peu pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans cette cause, comment est-ce qu'elle parvient à faire bouger les choses à son échelle. Et en fait, c'est hyper inspirant parce qu'en fait, on se dit que même à nous, dans notre petite échelle locale ou nationale, on a un pouvoir de sensibilisation. Moi, par exemple, au lycée, il y a des bacs où on peut mettre des bouchons de lait, de stylos, ou même à la cantine où il y a des choses mises en place pour recycler et pour diminuer un peu ce phénomène de gaspillage alimentaire.
C'est ça. Moi, justement, t'as cité un chanteur. Moi, je voulais rebondir à ce que Inaya avait dit tout à l'heure. Elle avait dit qu'on avait besoin des apports venant des animaux, de la viande, etc. Moi, je suis une youtubeuse sur YouTube. Je la regarde régulièrement. Elle s'appelle Lilix et elle est végane. Ouais, elle est végane depuis 5 ans, mais elle est végétarienne depuis presque 9 ans, je crois. Donc, elle est grave militante pour la cause environnementale. Et elle nous a expliqué dans une de ses vidéos qu'en fait, l'apport qu'on a via les animaux, on peut les avoir via autre chose. Il faut juste faire des recherches. Bien sûr, c'est nous, par exemple, moi, que je ne suis pas du tout végétarienne, mais je réduis ma consommation de viande. C'est vrai que moi, maintenant, à l'heure actuelle, arrêter ma consommation de viande, ça va être un peu difficile. Mais quand je me dis... et que je me réconforte en mode, je me dis, moi, les apports, je peux avoir autre part. Donc, autant aussi prendre plaisir avec d'autres aliments, parce que c'est des aliments que je ne consomme pas.
Lilix, c'est une créatrice de contenu, principalement sur TikTok et YouTube, qui est végane et qui explique le pourquoi du comment. Elle teste plein de restaurants vegan et partage ses bonnes adresses et bonnes pratiques à ses abonnés.
Et aussi, juste pour rebondir sur ce que tu avais dit, Ella, la junk food, c'est dangereux. Et en fait, c'est comme on disait, c'est ce qu'on trouve partout. Et on va chercher de la facilité. On ne va pas forcément se rendre compte de ce qu'il y a derrière et faire attention. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous tue à petit feu chaque jour.
Après, je pense que juste pour... le petit mot, enfin, vers la fin, mais je me rends même compte, comme on dit, Greta Thunberg et tout, qu'on est une génération qui est assez mobilisée. Souvent, quand on regarde des reportages, ils disent que 70% des jeunes, un peu partout dans le monde, sont en prise, en tout cas, se sentent concernés par toutes ces problématiques environnementales. Et moi, ça me rassure parce que je me dis que les décideurs de demain, c'est nous. Et donc, il y a quand même un peu de chance pour qu'on s'en sorte et que ce ne soit pas trop mal pour les générations futures.
Les filles, on parle de nourriture, de futur. Est-ce que, après cet échange enrichissant, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous mangerez toujours des tomates en hiver ?
Très bonne question. Non, moi personnellement, je pense que je vais faire attention, notamment parce que je peux faire mes propres courses, que je vis seule une grande partie de l'année, donc j'ai cette possibilité et je le fais au fur et à mesure. Moi, je m'interroge déjà, donc je pense que je pourrais réduire ma consommation de tomates en hiver. Ou je sais pas si ça fait du mal si je les consomme en conserve, par exemple, ou en tomates concentrées.
Il faut voir sa production.
Voilà, faut voir. Mais je pense que oui.
Moi, personnellement, étant donné que je vis avec mes parents et que mes parents, ils sont acheteurs des tomates durant le mois d'hiver, bah, je sais pas en vrai. Enfin, moi, personnellement, je n'en consomme pas déjà de base, mais je leur ferai... le petit message de prévention, bien sûr.
Et moi, je pense aussi que j'essaierai de réduire ma consommation de tomates parce que c'est important de faire attention et je savais pas du tout. Donc, j'en parlerai aussi à mes parents. On verra, on avisera.
Toi, Émilie, tu as consommé des tomates ?
Alors, je pense qu'après ça, non. Mais je pense privilégier des alimentations et des légumes de saison pour respecter le cycle de production et... Mais la réponse est non. Donc, les filles, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir discuté avec moi. Et on remercie la Cité Audacieuse pour nous avoir prêté son studio pour cet enregistrement d'épisode. Et on vous dit à la prochaine.
Merci.
À la prochaine.
C'est trop bien.
Si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'à la dernière seconde. Alors, merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles. N'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu. En attendant, tu peux t'abonner au Rêvecast pour être informé des nouveautés, mais aussi aux différents profils de l'association Révèle sur les réseaux sociaux. À bientôt, salut !